Alors, bonjour tout le monde, on est dans le cours L'âme sœur. On achève, il nous reste deux dimanches encore, si je ne m'abuse. Puis on est en train de vous préparer un petit panel pour la fin, pour le dernier dimanche, avec des gens soit qui ont été longtemps célibataires, soit qui le sont encore, puis des gens qui vont nous partager, répondre à des questions un peu au niveau de leur fréquentation. Je pense que ça va être pas mal intéressant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ensemble ce matin pour apprendre, réfléchir sur les fréquentations, sur la préparation au mariage, Seigneur. Père, on veut te demander de nous aider à accepter de remettre en question des fois des choses, des opinions qu'on s'est faites pour chercher la sagesse. Chercher la sagesse ensemble pour bien faire, Seigneur. Pour bien prendre ces décisions qui sont super importantes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. OK, alors on va juste compléter brièvement la leçon 8 et puis on va couvrir la leçon 9 qui est quand même moins lourde en contenu. L'erreur des fois que je fais, c'est de prendre trop tôt beaucoup de questions. Alors je vais vous demander comme de peut-être de vous restreindre un petit peu au départ, puis juste pour être certain qu'on couvre bien la matière. Donc je suis dans la leçon 8. La semaine dernière, on a abordé, là. Je crois qu'on avait quand même pas mal couvert le sujet. On a terminé sur la question de partager un peu son passé. Je dois vous mentionner qu'il va y avoir des tests, je m'excuse, avec la projection tout à l'heure pour les baptêmes. Ils vont juste faire des petits tests. Alors, ça va être un petit peu déconcentrant ce matin, d'accord? Mais je vais essayer de rester focusé sur mon auditoire qui est tout près de moi, là. C'est bon? Donc, la semaine dernière, on a terminé en parlant de partager son passé. À un certain moment donné, dans notre parcours, dans notre préparation à se marier, il faut jouer livre ouvert et puis prendre le temps de couvrir notre histoire passée. Esther m'a rappelé, elle était assise juste là la semaine dernière, m'a rappelé que moi, je l'ai faite avant de commencer les fréquentations ou quelque chose comme ça, très tôt, au début des fréquentations. Dans le fond, ce que je veux mentionner avec ça, juste pour terminer, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être une expérience vraiment difficile. Ça dépend de comment vous assumez ça, comment est-ce que vous vivez avec votre passé. Et donc, peut-être que vous voulez, surtout si vous êtes accompagné par un couple qui vous suit dans vos fréquentations, peut-être que vous voulez demander à quelqu'un de prier pour vous, de préparer cette soirée-là, d'être prêt à récupérer. Si vous êtes accompagné, vous pouvez tout simplement mentionner au couple qui vous accompagne. Écoutez, la semaine prochaine, on va s'asseoir ensemble et on va parler de notre passé. Et puis, donc, peut-être vous verrez comment est-ce qu'on file après ça et aider à récupérer ce qu'il y en est, tout ça. Si c'est vraiment comme un big issue pour vous, puis vous dites, je suis pas sûr que la personne sait vraiment qui je suis, c'est quoi mon histoire. En même temps, on n'est pas naïf, là, on n'a pas la tête dans le sable, puis on sait que les gens qui arrivent du monde arrivent avec leur vie, tout ça. Mais c'est ça l'Église. C'est des gens qui ont évolué dans l'Église sans nécessairement s'éloigner de la communauté de l'Église, même avant d'être chrétien, et d'autres qui ont vécu tout simplement dans le monde ou qui se sont éloignés et puis qui ont tout un bagage. Mais aussi, des fois, ceux qui sont dans l'Église ont des histoires très personnelles, très difficiles. Évidemment, là, on pense à des situations d'abus, des choses comme ça. C'est des choses qui doivent être abordées, qui doivent être mentionnées pour simplement que la relation commence avec vraiment sur une base très honnête. Encore une fois, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, toutes les informations qu'on va chercher en préparation pour le mariage dans nos fréquentations, ce n'est pas vraiment sur cette base-là, c'est-à-dire les informations sur l'autre, comment j'apprends à connaître l'autre, ce n'est pas vraiment sur cette base-là qu'on va construire notre mariage. On va construire notre mariage sur le fondement de la parole de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ, sur la décision qu'on prend de s'aimer l'un l'autre, puis c'est cette alliance-là qui est le fondement, qui est le ciment de notre mariage, d'accord? Puis ça, c'est important de le réaliser parce que même si on partage notre passé, bien, ça se peut qu'il y ait du passé dont on ne se souvient pas et qui ressort après. Ça se peut qu'il y ait du passé dont on mesure mal les conséquences, les implications, puis ça se révèle après dans la suite des choses. Et ce serait inacceptable, ce ne serait pas justifié bibliquement pour un des deux de dire « Ah, je ne savais pas, donc c'est ça ». C'est pas sur cette base-là, d'accord, qu'on va... Tu ne m'avais pas dit que ça aurait toutes ces implications-là. Donc, moi, je décroche du mariage. Non, non, tu t'es pas marié conditionnellement à ce que tout soit conforme à la garantie qui vient avec l'achat. D'accord? T'achètes sans garantie, sur la base de ta décision. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ça avant que j'aille plus loin? Puis moi, je vous dirais, là, bien honnêtement, là, si ça, c'est pas clair dans votre esprit, de grâce, ne fréquentez pas, ne vous préparez pas au mariage et ne vous mariez pas. D'accord? Parce que vous êtes en train de le faire comme le monde le fait, si vous le faites quand même. Et c'est pas le bon fondement. C'est pas le bon fondement. Est-ce que maintenant, vous avez des questions avec ce que je viens de dire? C'est bon? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez m'en poser à moi, mais vous pouvez en poser aux couples qui sont impliqués aussi. Jonathan, Nathalie, Jean-Paul, Carole, plusieurs des couples qui sont là. Caroline, Jean-Sébastien. Juste voir s'il manque des petits éléments. Mais en fait, non. Là, si vous prenez le temps de lire la suite des notes, vous allez voir un paquet de sujets qui sont à discuter, que ce soit vos convictions théologiques, que ce soit sur différentes questions. On vous donne vraiment là, toute une liste de sujets que vous pouvez aborder ensemble, puis qui, oui, devraient être discutés. Oui, si j'ai le privilège de bien pouvoir préparer mon mariage, puis si j'ai le privilège de pouvoir faire connaissance vraiment, mais oui, il y a un million de sujets à aborder. Puis il y a des choses à construire ensemble, il y a des choses à vivre ensemble dans la parole de Dieu, prendre du temps ensemble dans la parole, ça m'aide à connaître l'autre, d'accord? Donc, vous avez beaucoup d'éléments qui sont là dans les notes. Évidemment, bon, ben, pendant toutes les fréquentations, la redevabilité demeure super importante. Donc, si cette période-là intermédiaire, là, on termine avec cette idée-là, là, mais si cette période-là intermédiaire où on a initier les fréquentations, puis celles qu'on va voir ensemble ce matin, où on prend la décision, on a une date, on passe à la demande en mariage, tout ça. Dans cette période-là intermédiaire, plus elle est longue, plus la redevabilité devient super importante. D'accord? Alors, si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas suivi dans le cadre des couples ici qui suivent, bien, à tout le moins, vous devriez chercher des gens sages à qui vous allez être redevable. Et ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de poser les questions difficiles. D'accord? Qui sont capables de s'entendre avec vous sur les limites que vous êtes entendus comme couple. D'accord? Et de pas être gêné de le faire, puis de pas être gêné de le faire lorsqu'on n'a pas de nouvelles. La redevabilité, ça vaut rien si j'attends juste que la personne me donne des nouvelles. D'accord? Parce que la nature humaine est telle qu'on va se laisser aller pendant un temps avant de se repentir. Ça va. On va passer à la leçon 9. Là, ça commence à être très, très concret. La leçon 9, on se prépare à se marier. On passe à la grande demande. Quand je me suis engagé dans les fréquentations, je me suis engagé dans les fréquentations en vue du mariage. Je me suis engagé dans les fréquentations avec une quasi-certitude que c'est cette personne-là que je veux marier. Je ne suis pas là pour flirter, je ne suis pas là pour m'amuser. On traverse la période intermédiaire où on va comme valider des choses, on va apprendre à se connaître un petit peu plus. Et puis, à un certain moment donné, il y a une conviction qui commence à s'installer, au moins d'un côté ou de l'autre. Et c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps vraiment de prendre la décision, de faire la demande en mariage, puis les fiançailles, et puis d'aller voir la famille si pour une raison quelconque, vous n'avez pas vraiment fait connaissance avec la famille. Et des fois, les situations sont super complexes, d'accord? Mais si ce n'est pas le cas, c'est le temps d'aller vraiment rencontrer la famille. Moi, dans mon cas, j'ai pris le temps vraiment d'aller demander à mon beau-père la main de sa fille. Puis c'était juste une anecdote, mais c'était sympathique parce que monsieur Guertin est un catholique pratiquant. Il n'était pas non plus comme super réfractaire au fait que je suis évangélique, là. C'était évangélique, tout ça. Fait que lorsque je suis allé demander la main de sa fille, il a voulu comme vérifier la qualité de ma foi, hein, puis tout ça, puis il dit « Parle-moi un peu, là, c'est quoi pour toi ta foi, comment tu vis ça? » Puis là, j'ai expliqué que je faisais mon culte chaque matin, je prenais une heure avec le Seigneur, je lisais, puis le soir, je reprenais 45 minutes de prière, puis Ça a comme pris 5 minutes, c'était réglé. Tout était beau. Done deal, mon gars, tu peux la marier. Fait que c'était vraiment intéressant. Juste de voir que, oh, OK, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un sérieux comme ça dans ma foi. Il était bien, bien rassuré très, très vite. Alors, des fois, cette période-là est difficile. Cette étape-là est difficile. Parce que là, c'est comme on n'y est plus avec le POC. Là. On prend la décision. C'est clair qu'une fois qu'on a fait la demande pour qu'on vienne en arrière, il faudrait vraiment qu'il y ait des raisons majeures. Puis on sent que c'est l'engagement. Puis des fois, cette étape-là peut être extrêmement douloureuse parce qu'on niaise avec le POC, comme on dit au Québec. On tourne en rond, puis on n'ose pas aller de l'avant, prendre des décisions. Alors, ce matin, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner quelques éléments pour vous aider à clarifier la décision, puis vous encourager à passer à l'action si c'est là que vous êtes rendu. Parce que effectivement, dans certains couples, c'est un moment qui est difficile, c'est un moment qui est douloureux, puis des fois, c'est un moment qui est même mortel pour la relation, juste à cause de toute l'indécision qu'il y a là, puis la difficulté à prendre vraiment une décision. J'ai bien aimé comment ils l'ont présenté dans les notes de l'église de Capitol Hill. Au départ, ils disent, en principe, si tes fréquentations étaient bien conduites, il n'y a pas de raison que tu commences à chercher, au moment où tu dis, là, OK, là, je veux prendre une décision, tout ça, que tu commences à chercher dans la personne des qualités que tu ne cherchais pas quand tu as commencé à la fréquenter. En principe, ce qui t'a attiré avec cette personne-là, si tu as pris le temps de l'observer quand même un peu, tout ça, ce qui t'a attiré chez elle, c'est les mêmes raisons pour lesquelles tu vas la marier. Comprenez? C'est comme, c'est pas raisonnable. Il n'y a pas de raison pour dire, bon, ben là, OK, là je vais vérifier. J'ai des nouveaux critères, j'ai des nouvelles choses. À moins que dans le processus des fréquentations, ces fréquentations-là vous aient amené, vous, par des déceptions, par des blessures, par des choses qui ont été vécues dans les fréquentations, vous amenez, vous, à maturer énormément. Puis là, vous dites, OK, attends un petit peu, je ne suis plus du tout la même personne aujourd'hui que celle qui a commencé à te fréquenter il y a 8 mois, admettons. Parce que j'avais pas vraiment de tête sur les épaules, il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour moi dans ma maturité, puis notre relation a provoqué des choses, puis vraiment, j'ai pris de la maturité. Mais dans ce cas-là, probablement que la fréquentation pourrait s'arrêter là, d'accord? Mais autrement, il n'y a pas de raison parce que j'arrive au moment où je vais faire la demande. Vous comprenez que je m'adresse aux éternels indécis, là? Il n'y a pas de raison pour qu'au moment où j'arrive à faire la demande ou bien on veut prendre une décision, que ce soit le gars, la fille qui doit répondre, prendre une décision, tout ça, que là, je m'invente un paquet de nouveaux critères. Ce qui a fait que j'ai été intéressé par elle ou par lui, puis que je me suis engagé dans ces fréquentations-là, sont ensemble les mêmes raisons pour lesquelles je vais choisir effectivement de me marier avec. Mais je pense que pour certaines personnes qui sont très indécises, qui ont de la difficulté à prendre des décisions, c'est comme si à ce moment-là, OK, qu'est-ce que je cherche dans le fond? J'espère que tu t'es posé la question une fois avant, tu sais. D'accord? Mais en même temps, on va se donner quelques questions. Ça va? Donc, prendre la décision. Comment savez-vous si vous avez trouvé la bonne personne? Comme je l'ai dit, en principe, vous le savez depuis le début. Vous avez juste validé des choses ou invalidé des choses. Mais s'il n'y a pas de raison d'invalider la décision de vous engager dans la fréquentation, la réponse est déjà donnée depuis le début. D'accord? Évidemment, si vous voulez prendre le temps de juste bien vous poser la question avant de faire une demande ou avant de répondre à une demande, ben je vais prendre le temps juste de vraiment reculer en arrière puis dire « qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? » Est-ce que ça se peut que dans ces fréquentations-là, j'étais tellement dans une bulle que j'aurais perdu Dieu de vue? Mon premier appel dans la vie, c'est pas l'appel au mariage, c'est l'appel à servir Dieu. Est-ce que cet engagement-là dans ces fréquentations-là, finalement, ça m'a complètement dévié de cette priorité-là qui est Dieu dans ma vie? Là, ça serait matière à dire, je réalise que ça n'a juste pas de sens, puis quand vient le temps de prendre la décision, je réalise que si je continue dans cette voie-là, dans le fond, j'ai tout perdu mon focus sur Dieu à travers ça. D'accord? Maintenant, l'amour, c'est l'amour. Là. Tout devient un petit peu embrouillé, là. D'accord? Puis il y a quelque chose de normal dans ça. C'est difficile de rester parfaitement équilibré lorsqu'on tombe en amour puis on commence ses fréquentations. Mais ce serait une bonne question. Juste revenir en arrière. Ensuite de ça, retourner dans Éphésiens 5. Aller lire Éphésiens 5 juste de manière simple puis dire, OK, l'homme, la femme, leur rôle, leur relation, l'amour qu'il y a là, Est-ce que c'est ça que je vois qu'on va être capable de faire ensemble, de construire ensemble? Si je dis non, je n'arriverai pas à construire ça. Comme je vous dis, vous auriez pu déjà prendre cette décision-là plus tôt, de dire on arrête ça là, on n'arrivera pas à construire ça. Mais quand même, vous pouvez vous poser la question à ce moment-là. Je suis prêt. Fait que, mesdames, monsieur vient vous faire une demande en mariage, vous pouvez faire ça. Juste de dire, OK, est-ce qu'on va expérimenter ça ensemble? Éphésiens 5, est-ce que je vois qu'on va s'en aller là ensemble? D'accord? Qui est vraiment le passage, je dirais, dans le Nouveau Testament sur le couple. Si la réponse, c'est non, c'est non. Puis ça, vous n'avez pas besoin de 6 mois pour répondre. Vous avez fait des fréquentations, vous avez traversé cette période intermédiaire-là, il y a une demande qui est faite, vous dites, Éphésiens 5, je ne vois pas comment on va vivre ça ensemble. C'est non. Essayez pas, rendu à ce moment-là, de dire, bien, vois-tu, je ne sais pas si on va réussir à vivre Éphésiens 5 ensemble. Peux-tu me faire la preuve, s'il te plaît, à travers les 3 prochaines conversations, dans les 3 prochains mois, je ne sais pas, que tu vas changer puis qu'on va vivre Éphésiens 5 ensemble. Si ce n'est pas clair, c'est pas clair, c'est non. Ça finit là. Il ne va pas se transformer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mentionné à un certain moment donné dans le cours, je n'ai jamais vu, d'accord, des changements de valeurs fondamentales. J'ai jamais vu des conversions. J'ai jamais vu des changements de compréhension de l'expérience de la vie chrétienne qui sont survenus pendant les fréquentations qui ont duré dans le temps. Je ne vous dis pas que ça ne se peut pas, mais je ne l'ai jamais vu. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. J'en ai marié du monde, puis j'en ai vu des couples passer à l'église. J'en ai jamais vu. D'accord? Les gros changements de valeur, les grands changements de mon expérience de Dieu, de mon expérience de la foi, de pseudo-conversion que j'ai vu pendant des fréquentations n'ont jamais tenu après. Jamais vu. Donc, si tu arrives là, à cet endroit-là, puis tu dis, OK, non, il m'a fait une demande, ou je me prépare à faire une demande, ou OK, je vais juste prendre un moment de recul, là. Je pense qu'il faut prendre une décision, il faut bouger, là, puis je m'en vais dans Éphésiens 5, puis je dis, est-ce qu'on va être capable de vivre ça? Si la réponse est non, essayez pas de négocier des transformations. Là. Done deal, c'est non, c'est fini. Vous y arriverez pas, ça se produira pas. Si ça doit se produire, mettez fin aux fréquentations, puis dites-vous, regarde, dans 2 ans, si je suis pas marié, t'es pas marié, peut-être que Dieu nous mettra ensemble, puis il y aura des vrais changements qui se seront vécus. Pas 6 mois, pas 3 mois. Ça vaut rien. Ça vaut pas de la colle. C'est pas vrai. D'accord? Puis je dis même pas que la personne veut tromper. On est les premiers à se tromper nous-mêmes. D'accord? Je suis pas en train de dire que la personne est de mauvaise foi nécessairement. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça va? Peut-être juste parler dans le micro.
Dans Genèse, nous apprenons que la femme est la côte de l'homme.
Oui.
Est-ce que vous pensez que chaque homme épouse sa côte? Ou alors une femme peut épouser la côte d'une autre personne?
Oui, je comprends le sens de votre question. Vous me posez ça vraiment à l'africaine. Tout en métaphore. Hein? Je vais répondre très brièvement à votre question, puis je vais vous demander d'aller écouter les pistes sonores sur le site web, parce que j'ai répondu plus longuement à cette question-là. À partir des Saintes Écritures, je ne peux pas justifier, je ne peux pas défendre l'idée, ici en Occident, là, parce que si je comprends bien le sens de votre question, ici en Occident, on va parler du concept d'âme-sœur, d'accord? Donc, Dieu a créé une personne qui est la personne pour moi. Je ne peux pas le justifier avec les Écritures, ça. Dans le sens que l'expérience d'Adam et Ève, c'est une expérience, on s'entend, qui dans l'histoire de l'humanité est absolument unique. D'accord? Maintenant, il y a certaines cultures, et qui ont même été absorbées par le christianisme, il y a certaines cultures. Par exemple, on va trouver dans une certaine théologie juive l'idée que puis je me souviens pas de l'image, je pense que je l'avais montré. On trouve ça aussi dans certaines pensées amérindiennes que en réalité Esther et moi, à l'origine de notre création, on est une seule âme. Et cette âme-là a été séparée, cette âme-là doit se retrouver pour devenir une seule âme. Il n'y a aucun fondement dans les Saintes Écritures pour défendre ça. Parce que c'est vraiment dévier ce qui se passe avec Ève qui est créée de la côte d'Adam, qui dans ce cas-là, vraiment physiquement est là, je ne pourrais même pas justifier qu'il s'agit d'une même âme. Je n'ai pas la théologie pour faire ça. C'est vraiment deux personnes qui, toutes deux, doivent répondre chacune devant Dieu de leurs actions, de leurs choix. Alors, lorsque je prends l'idée, admettons, d'une seule âme pour expliquer, lorsque Dieu va dire, bien, ils vont devenir une seule chair, je fais fausse route à ce moment-là. Par exemple, lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, puis Paul va dire, bien, si ton conjoint est non chrétien, mais qu'il accepte de rester avec toi, tu demeures avec lui, puis tu prends soin, puis tu es là. Mais si cette personne-là meurt hors de la foi, quand elle va se trouver devant Dieu, vous n'êtes pas une âme, puis toi, tu es sauvé, puis lui est sauvé. C'est deux âmes qui se présentent devant Dieu, puis qui passent devant le trône du jugement de Dieu. Donc, je n'ai pas de matière dans les Écritures pour élaborer une théologie de l'âme sœur. Ce que j'ai dans les Écritures, c'est de prier pour que Dieu dirige, pour que Dieu mette la personne sur ma route avec qui je vais pouvoir construire un foyer chrétien. Mais ça va se faire vraiment à travers un cheminement de prière, de recherche de la sagesse, de consultation. Et une fois que vous allez être marié, ben, je vais vous dire, c'est celle-là que Dieu voulait pour toi, c'est celui-là que Dieu voulait pour toi. Une fois que vous allez être marié, ça, je vais vous dire, ça rendu là. Mais je pourrais vous en parler plus longuement, vous pourriez aller écouter, j'ai abordé ça plus longuement dans une des leçons. C'est une excellente question. Quelques mythes concernant la décision et concernant le mariage, d'accord, qui peuvent jouer dans votre tête lorsque vous essayez d'arriver à ce moment-là où vous prenez une décision. Alors, le premier, c'est que ça prend une tonne d'informations pour prendre la bonne décision. Toutes les approches de préparation au mariage qui vont mettre tout l'emphase sur les informations à recueillir avant de prendre la décision exagèrent toujours l'information à recueillir, tout le temps. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, là, j'avais devancé un peu ça, plus je mets l'emphase sur l'information à recueillir sur l'autre comme condition nécessaire au succès de notre mariage, plus je déplace en réalité. C'est comme si j'avais un ciment que je venais rendre plus friable. Parce que le ciment sur lequel je bâtis mon mariage, ce n'est pas la somme des informations que j'ai sur l'autre personne. C'est l'alliance qu'on traite ensemble devant Dieu qui est une décision. Alors, l'idée de dire, bien, je pense que oui, je pense que c'est la bonne personne, mais j'ai besoin d'un peu plus d'informations encore. Si tu as bien fait les choses, tu n'as pas besoin de plus d'informations. Ce n'est pas plus d'informations qui va faire que le mariage va fonctionner ou non. D'accord? C'est le fondement sur lequel vous décidez de le construire. Oui, Sam.
En fait, deux questions. Mm-hmm. Est-ce que tu es en train de dire que les informations qu'on recueille ne sont pas nécessaires?
Okay.
Ou bien, deuxième question, s'il y en a qui sont nécessaires, lesquels qui sont nécessaires et lesquels qui sont facultatifs?
Bien, je vais être plus raisonnable, d'accord? Si je te répondais dans l'absolu, il n'y a aucune des informations qui est nécessaire. Parce que je vous l'ai dit, les mariages arrangés avaient beaucoup de vertus. Je suis très content que mon mariage n'ait pas été arrangé. D'accord? Très, très content. Mais est-ce qu'un chrétien peut être marié avec un non-chrétien? Tu sais, s'il y avait une information nécessaire que tu veux, c'est au moins de savoir si la personne est chrétienne. C'est comme, tu en veux une nécessaire, ce serait celle-là. Est-ce qu'un chrétien peut être marié avec un non-chrétien? Je ne dis pas qu'il va le faire consciemment de se marier avec un non-chrétien. Mais est-ce qu'un chrétien découvre que son conjoint finalement n'est pas chrétien? Peut construire un mariage puis tirer son épingle du jeu. Moi, je peux vous présenter des gens qui sont vraiment des personnes de Dieu dans cette église, qui sont dans cette situation-là. Ils sont en train de faire, de manifester la gloire de Dieu à travers leur union dans ce contexte-là. Fait que si je veux aller dans un sens absolu, non. Maintenant, puisque j'ai ce privilège-là, à quoi ça sert d'avoir des informations? Ça sert à être plus lucide. Fait que l'illustration que je donne tout le temps lorsque c'était moi qui donnais les cours de préparation au mariage, une des premières choses que je disais, je veux juste être bien, bien clair avec vous, l'objectif du cours de préparation au mariage, c'est de vous aider à prendre conscience que vous pognez un citron. Au Québec, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi taper un citron, c'est acheter une voiture qui est fondamentalement défectueuse, puis que tu as beau faire des réparations, problème après problème vont survenir. C'est une mauvaise conception, elle a été mal fabriquée en usine. C'est un citron, on appelle ça un citron, d'accord? Mais le but pour moi du cours de préparation au mariage, c'est de donner un fondement biblique, savoir sur quoi on bâtit le mariage. Puis en ce qui a trait à connaître l'autre, c'est de réaliser à quel point je pogne un citron. C'est rendre les gens lucides. Tu maries un pécheur, il a des belles qualités, ouh, c'est génial, c'est pour ça que tu as été attiré par lui. Maintenant, on va juste essayer de t'aider à réaliser qui tu maries dans ses faiblesses aussi. Parce qu'après, c'est cette personne-là que tu vas devoir aimer. Après la lune de miel, quand tu vas retomber sur terre, tu vas réaliser que tu n'as pas marié Jésus. Les filles, c'est sûr que vous mariez toutes Jésus, je vous le dis. Je vous le dis, vous mariez Jésus, c'est ça que vous pensez. Puis vous allez réaliser, vous allez dire, non, je sais que c'est un colon. Pour de vrai, tu penses que c'est Jésus. Il est juste comme à un an de devenir Jésus. Quand tu vas réaliser que ce n'est pas Jésus, tu vas venir me voir, puis moi, je vais te dire, mais je t'avais dit que ce n'était pas Jésus, c'est un citron que tu pognais. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à être lucide. Et moi, ça m'a servi énormément dans mon mariage, puis ça a servi beaucoup à Esther. Elle savait qu'elle pognait un citron. Elle ne pensait pas qu'il était aussi surette ou amer, le citron. D'accord? Elle n'avait pas goûté encore à tout le citron. Ça va? Mais... Donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert... Elle va licher le citron. C'est à ça que ça sert. Ça sert à être lucide dans la relation dans laquelle je m'engage et de pouvoir déjà comme dire c'est cette personne-là que je vais aimer puis c'est comme ça que je vais le faire. Puis je pense que ça rend l'adaptation dans le mariage plus agréable, plus facile. Je suis conscient de ça. Je comprends déjà que ça ne va pas être comme « Ah, j'ai eu une mauvaise surprise, donc je ne suis pas heureux dans mon mariage. » Il n'y en a pas de surprise. Tu pognes un citron. Tu veux-tu marier un citron? Mais je veux dire, c'est ça la réalité. On est tous pécheurs. C'est la base. Je veux dire, si vous ne comprenez pas du tout le langage que je suis en train d'utiliser, on peut vous prêcher l'Évangile. D'accord? Parce que le fondement de l'Évangile, c'est que tout le monde ici, c'est des citrons. Ça va? Ça, c'est le fondement de l'Évangile. On est pécheurs. Je ne veux pas accepter Jésus si je ne réalise pas que je suis un citron. C'est bon? Fait que moi, je suis un pasteur d'une église de citron, puis le gars qui prêche tous les dimanches, c'est un citron. Ça va? Oui, Sam. Il a quasiment claqué des doigts.
Est-ce que tu es en train de dire qu'il n'y a pas vraiment de d'informations qui, quand je peux dire, qui a rapport aux défauts, qu'il n'y a pas de défauts qu'on pourrait découvrir qu'on ne serait pas capable de dealer avec, je veux dire, avant de s'engager?
Mais c'est comme je vous dis depuis plusieurs semaines, Sam, c'est que je peux apprendre à vivre avec toutes les situations du monde par la grâce de Dieu. Si ma théologie est solide, il n'y a aucune épreuve qui m'est donnée sans que Dieu me donne la force pour la traverser. Mais si j'ai le privilège de choisir, bien, je vais peut-être choisir les défauts que je veux et les défauts que je ne veux pas. Tu comprends? Fait que, laissez-moi vous donner un exemple un peu plus bête, là, puis peut-être vous allez trouver que ce n'est pas très galant, mais de toute façon, tant qu'à parler de citron, parlons de citron. Il n'y a pas de job parfaite. Il n'y a pas de job où il n'y a pas des tâches super poches. Si tu as le privilège de choisir ton travail, ta profession, ton métier, tu choisis celui où les côtés poches te dérangent moins puis les côtés le fun te stimulent le plus. That's it. Mais si tu cherches la job où il n'y a pas de choses poches puis plates puis dures, tu ne sais pas c'est quoi le mot « travail ». Tu comprends? Donc, c'est la même chose. C'est que quand je regardais les jeunes filles à l'église, j'ai dit « Celle-là, wow, elle a toutes ces qualités-là, elle a ces défauts-là, celle-là, elle a... » Nanana. Puis je me sens tiré par Esther, puis je pense que je devine ses défauts, puis plus j'avançais, je disais, oui, j'avais vu juste, mais ses qualités étaient extraordinaires pour moi. Fait que j'ai dit, I'll bear with that. Je vais vivre avec ces défauts-là, c'est celle-là que j'aime, c'est ma rose parmi les épines, pour faire plaisir à ça. Ça va? Elle avait quelques épines, ma rose. Si vous vous rappelez du Petit Prince de Saint-Exupéry, n'est-ce pas? OK. Donc, un des mythes, c'est ça me prend plus d'informations, plus d'informations, plus d'informations. Un autre mythe, c'est faut pas que je prenne une décision parce qu'il faut que je garde mes options ouvertes. Celui ou celle qui est extraordinaire va peut-être tourner le coin de la rue juste là, va arriver à l'église, puis je vais trouver la bonne personne. C'est tellement un mauvais fondement, c'est tellement un fondement égocentrique du mariage, d'accord? Si vous avez l'ombre de ce genre de raisonnement-là, de grâce, engagez-vous pas dans les fréquentations. Attendez-le qu'il tourne le coin. Mais regarde, dérangez pas les autres. Puis restez là, puis restez sur le coin. Puis laissez les autres se marier. Ça va? Puis le jour où il arrivera, vous le saurez. Puis c'est waouh, ce sera merveilleux. Mais au moins, vous n'aurez pas brisé des cœurs, puis vous n'aurez pas joué avec les tripes du monde autour de vous. Fait que c'est un mythe, cette affaire-là. On construit sur la base d'une décision notre relation. Un autre mythe, c'est que l'attirance physique, l'espèce de chimie qu'il y a entre nous, c'est absolument... Il faut que ce soit très, très grand, cette affaire-là. Mais on vieillit, hein? Fait que s'il fallait que ce soit très, très grand, j'espère que c'est pas le physique qui faisait votre chimie. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'on change. On change. Moi, dans ma personnalité, là... moi, je suis un rescuer. Je suis un sauveur. Fait que quand j'étais jeune... Et encore aujourd'hui, ce qui premièrement m'attire, là, c'est la petite personne qui est là-bas dans son coin puis qui est pas bien dans sa peau. Moi, je suis attiré par ces gens-là. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'étais dans la classe. Je voyais un gars qui était comme le reject de la classe. Il fallait que ça devienne mon meilleur chum. J'ai toujours été comme ça. Fait que Esther, c'était une drôle de nerd, Esther. Elle accepterait que je dise tout ça. OK? Une fille super brillante, mais c'était une drôle de nerd qui était comme... pas super intégrée socialement, puis super talentueuse, mais en même temps, à l'école, c'était pas cool pour elle, toujours l'école, tu sais. Fait que moi, je suis attiré par une fille comme ça, c'est certain. Il y a toutes les qualités, mais il y a comme, elle a besoin de ma protection. Waouh, je vais me garocher, puis je veux la protéger. Qu'est-ce qui se passe si Esther grandit à l'image de Christ? Qu'est-ce qui va arriver avec cette personnalité-là? Elle va prendre l'assurance? Elle n'a peut-être plus besoin que je la sauve à tous les jours. Oui, mais moi, j'ai été attiré. Moi, la chimie, c'était ça. Je suis un sauveur. Elle n'a plus besoin que je la sauve à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Puis je veux dire, c'est de toute beauté là, ce que je raconte comme histoire. Mais si notre relation était construite sur cette espèce de chimie-là, tu avais besoin de ça. Fait que le mariage, c'est 1 million d'adaptations. Fait que de dire que ça prend une chimie absolument extraordinaire, puis c'est ça qui va faire que le mariage va fonctionner, vous rêvez en couleur. C'est pas vrai. C'est faux. Encore une fois, c'est pas la bonne base. C'est pas le bon fondement. D'accord? C'est un mythe, ça aussi. Oui, j'ai le privilège de choisir. Oui, je veux avoir une attirance. Oui, je veux qu'il y ait quelque chose qui soit là. C'est une grâce. C'est un privilège qu'on a. C'est génial. Mais faut pas que je mette trop d'emphase sur ça. On va construire ensemble cette amitié, cet amour-là. Certains d'entre vous attendez comme le moment où il va y avoir une espèce de conviction magique qui va être là. D'accord? Vous ne le diriez pas comme ça, vous êtes dans une église baptiste ici, on ne croit pas que Dieu fait souvent apparaître des anges, Dieu n'écrit pas sur les murs, les versets ne commencent pas à briller pour dire « tchouf, c'est celui-là ». Fait que vous n'en parlez pas trop, mais dans le fond de votre cœur, vous croyez qu'à un certain moment donné, boum, ça va devenir super solide, puis ça va être comme une impression spirituelle puissante. Moi, j'en ai vécu quelques-unes dans ma vie. Des impressions spirituelles puissantes. Je priais pour le salut de mon frère. Je l'ai souvent raconté. Sur la route, en train de brailler. Boum, je savais qu'elle allait être sauvée. J'ai vécu ça une fois pour une âme. Je n'ai pas de théologie pour défendre cette affaire-là. Je n'ai aucun fondement pour vous dire si de même ça marche. C'était juste comme ça. Vous pouvez me dire que ce n'est pas vrai. Vous dire que c'est vrai, je le savais. À partir de ce moment-là, j'ai dit, merci Jésus, il va se convertir. Merci Jésus, il va se convertir. Je sais, c'est fait. Mais certains d'entre vous, c'est ça que vous attendez pour le mariage. Vous attendez cette impression-là puissante pour le mariage, puis vous pensez que c'est là que vous allez être prêt à prendre la décision. Ça ne sera pas nécessairement le cas. Ça se peut, puis moi je vous souhaite, que ce soit simplement la décision la plus sage que vous aurez prise de votre vie. Ça veut dire qu'on appelle à la sagesse. On appelle à la considération. À la prière, ça se passe dans la prière. Mais cette conviction-là devient de plus en plus forte parce que l'élan du cœur que j'avais au départ est validé par la sagesse. Est-ce que ça fait du sens quand je dis comme ça? L'espèce d'attirance qu'il y avait là au début où je dis « wow, wow, wow », plus je la découvre, « wow, hey, c'est génial, c'est comme, je pense que ça va être « what a match », tu sais, ça va être vraiment bon. » Mais là, à un certain moment, la poussière redescend un peu, puis je dis, OK, là, on va passer ça au tamis de la sagesse. Je vais consulter les amis, qu'est-ce qu'ils voient. La famille, avez-vous l'impression? Vous me connaissez des fois mieux que moi-même. Je m'en vais dans les Écritures, on apprend à se connaître. On passe ça à travers le tamis de la sagesse, puis la conviction s'installe. Puis la conviction, à la fin, c'est pas « j'ai trouvé la bonne », c'est « je veux aimer cette personne-là jusqu'à la fin de mes jours ». Je choisis de t'aimer jusqu'à la fin de tes jours. Pas « j'ai trouvé la bonne ». Je choisis de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Que ça dérape, qu'il se passe n'importe quoi, je choisis ça. Ça, c'est ma décision. Puis c'est ma conviction. Et j'assume ça après. Puis, fait que c'est pour ça toute mon histoire du citron qui n'est pas super romantique, c'est que quand après ça, au jour le jour, je m'en vais dans la prière, je dis « Seigneur, je t'ai consulté, j'ai cherché la sagesse et j'ai pris une décision, je vais assumer cette décision-là, tout simplement. » Et tu vas me donner la force, tu vas me donner la grâce pour l'assumer. D'accord? Je peux subvenir des choses, mon conjoint peut m'abandonner, mon conjoint peut être infidèle puis quitter cette alliance-là. Il y a des choses qui peuvent arriver, d'accord? Mais pour ma part, c'est ça la décision que j'ai prise, je vais l'assumer. Ça va? Fait que j'aime bien comment ils disent dans le cours. Si vous fréquentez, c'est parce que vous croyez que vous êtes appelé à vous marier. Si vous croyez que vous avez trouvé la bonne personne, mariez-vous. Arrêtez de niaiser avec le POC. Parce que quand les fréquentations s'éternisent, c'est jamais bon, cette affaire-là. C'est jamais bon. D'accord? Cherchez pas la magie extraordinaire. Lâchez vos films d'Hollywood, là, puis vivez le film avec Dieu au lieu. Fait que, demande en mariage, fiançailles, on se prépare pour le mariage. Le temps va très, très vite. Peut-être un conseil que je vous donnerais, c'est dans vos fréquentations, réalisez qu'au moins les 6 derniers mois avant le mariage, il n'y a à peu près plus rien qui se passe. Il n'y a plus d'espace pour réfléchir. Parce qu'on est vraiment occupé avec la préparation de cette célébration-là, même si vous la faites simple ou si vous la faites plus grande. Fait que quand vous engagez dans les fréquentations puis vous essayez de vous projeter un petit peu dans le temps, comprenez que les 6 derniers mois avant de vous marier, là, il n'y a comme plus d'espace pour réfléchir. Les cours de préparation au mariage devraient être à peu près complétés, autant que possible rendus là. Il va rester quelques rencontres parce qu'on veut continuer à avoir un suivi. Il y a des sujets qu'on aborde plus vers la fin, des choses comme ça, mais on est vraiment accaparé par les préparatifs. D'accord? Alors quand vous envisagez les fréquentations puis vous dites, j'ai observé la personne, on s'embarque dans une relation, je veux me donner un temps pour quand même valider les choses, juste apprendre à se connaître un peu plus, être certain que c'est bien cette personne-là que j'ai connue, que je pensais connaître, tout ça. Ayez cette espèce d'agenda-là dans votre esprit. Les 6 derniers mois, vous allez être engagé dans les préparatifs du mariage. Puis ça ne sera plus un espace pour réfléchir vraiment. D'accord? Et puis, l'idée de redevabilité devient comme de plus en plus importante plus on approche du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui tombent dans les... Une fois qu'ils ont pris la décision, c'est comme si dans leur cœur... Puis malheureusement, il m'arrive d'entendre des chrétiens dire, ben une fois qu'on a pris la décision ensemble, pour moi, c'est comme si on était mariés devant Dieu. Non, c'est pas comme si. Pour moi, on était mariés devant Dieu. D'accord? Si jamais la personne que vous fréquentez commence à vous chanter cette chanson-là, puis elle dit « Donc, on peut avoir des relations sexuelles ensemble. » Parce qu'on a pris la décision, de toute façon, on est marié devant Dieu. Écoutez-moi bien. Vous allez avoir des relations sexuelles. Si cette personne-là décide qu'elle ne veut pas rester avec vous, toutes les belles paroles qu'elle a dites, elle ne voudra pas qu'on considère ça comme un divorce. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Cette belle conviction-là, très spirituelle, de dire, non, mais dans la Bible, là, c'est écrit où que ça prend un pasteur pour célébrer un mariage? Là? C'est écrit où ces affaires-là dans la Bible? Ah, pas grand place, c'est vrai. Mais ton union est publique devant les hommes parce que les hommes te tiennent redevable sur cette union-là. Ça, c'est très clair dans les Écritures. Fait que le toto qui va venir te voir puis qui va dire, non, mais on a pris une décision, fait qu'on est marié devant Dieu, donc on a le droit de vivre notre intimité. Ce toto-là, quand il va décider... 2 mois plus tard, que finalement, tu ne fais pas trop l'affaire. Il ne verra pas ça comme un divorce quand moi je vais dire, « Ouais, c'est ça, copain, on va te mettre en discipline si tu l'abandonnes. » Discipliné, dans l'église, c'est ça que tu veux? C'est un divorce. Tu m'as dit que tu étais marié, c'est un divorce. « Ah, j'avais mal réfléchi à mes affaires. » Je suis sérieux, là. Puis je l'entends encore, la chanson, je l'ai entendue à plusieurs reprises dans les dernières années. D'accord? Fait que c'est important d'être redevable jusqu'à la fin puis de se garder pur. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bon? À la toute fin de cette leçon-là, dans le fond, si vous voulez prendre le temps de comme réviser votre engagement avant de faire la demande ou avant de répondre à la demande, vous avez comme 10 sujets, 10 éléments que vous pourriez considérer qui sont super concrets. Je vous invite tout simplement à prendre le temps de les regarder. Ils sont quand même bien pensés dans le sens qu'ils sont terre à terre. Est-ce qu'on a du plaisir ensemble? Des fois, ça, je trouve que c'est le danger de ceux qui comprennent mal la vie chrétienne au début dans leur zèle. Moi, j'étais comme ça, OK? Quand je me suis converti, là, j'ai tout viré bout pour bout. Tout était simple. C'était super simple de marcher dans la sainteté pendant 2 ans. D'accord? Mais c'était comme, je suis un homme nouveau, je marche dans la sainteté, tout ça. Puis des fois, ce que ça amène, cette expérience-là de Dieu, c'est que la vie chrétienne, c'est un sprint. Puis c'est un sprint où tu es comme toujours rempli d'esprit, puis tu es toujours comme... T'es toujours en feu, puis c'est pas grave si c'est pas le fun, la vie chrétienne. C'est juste, moi, je suis là pour mourir pour Jésus, puis je meurs demain. Hey, ça se peut que tu meurs dans 70 ans, mon homme. Tu vas voir que c'est pas toujours comme ça. La vie chrétienne est supposée aussi d'être agréable. D'accord? Fait que s'il y a quelque part dans vos fréquentations, c'est juste comme une espèce de fruit d'une consécration récente dans votre vie, puis là, vous dites, oui, mais... Écoute, on va faire des choses pour le royaume de Dieu ensemble. Ça va être extraordinaire. J'espère qu'il va y avoir des gens qui vont vous regarder aller et qui vont dire, oui, mais est-ce que vous avez du plaisir? Parce que si vous n'avez pas du plaisir, vous n'avez pas compris c'est quoi le mariage. Vous n'avez vraiment pas compris c'est quoi. Allez lire le Cantique des Cantiques. Ils ne sont pas en train de faire leur culte à tous les jours. C'est pas vrai. À chaque seconde, il était en prière. Il ne se touchait pas, il était en prière tout le temps. Comprenez? Okay, je l'ai vécu, c'est pas dans notre mariage, puis je termine avec ça. Mais il y a quelques années, à un certain moment donné, j'ai eu une discussion avec Esther qui n'était pas en relation directement avec ça, mais c'est juste pour l'illustrer. Je me suis assis avec mon épouse, puis j'ai dit, Esther, t'as tellement maturé dans ton zèle que j'ai l'impression que tu es toujours en train de travailler. Tu es en train de travailler pour ta famille, tu es en train de travailler pour l'Église, tu es en train de te donner... Puis avec une provision d'énergie beaucoup moins grande que moi, avec une santé beaucoup moins bonne que moi. Puis à un certain moment donné, j'ai dit, il faut quand même que tu aies du fun à quelque part, tu sais. Faut qu'il y ait des moments où tu as du repos dans les Écritures, c'est présent, ça. Puis à ce moment-là, on a réfléchi ensemble, puis elle a décidé d'aller s'impliquer dans une chorale de chants classiques, non chrétienne. Parce que moi, j'avais toujours gardé ça dans ma vie. Même si des fois, des semaines, je travaille 70 heures, des semaines de fou, là. Je vais faire mon karaté, puis je suis en train de lire un roman. Puis c'est là, ça, parce que la vie chrétienne a aussi des moments de repos. Fait que si dans vos fréquentations, j'aime beaucoup la question, puis je vous encourage à prendre toutes les questions, je trouve qu'elles sont balancées. Donc, d'une part, le fondement de mon mariage, c'est mon amour pour Christ, c'est cette alliance-là. Mais tout ça, dans les Écritures, ça se vit avec équilibre. Et si vous engagez dans un mariage qui est déséquilibré parce que c'est comme dans un moment de zèle de fou, bien, vous allez retomber les pieds sur terre à un moment donné et vous allez dire, ouais, mais il faut quand même avoir un petit peu de plaisir dans cette union-là. C'est pas mourir tous les jours, cette affaire-là. Ça se peut que ça le devienne si le mariage est difficile. Mais il faut qu'il y ait du plaisir. Fait que j'aime beaucoup les questions à la fin. C'est bon? Il nous reste 2 semaines encore sur le cours. On va terminer avec un petit mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour la sagesse qu'on trouve dans ta parole. Merci, Seigneur, pour la sagesse qu'on trouve dans l'Église, la sagesse qu'on trouve en consultant, Seigneur, tes Écritures et en consultant les frères et sœurs. Merci, Père, pour le privilège d'être dans une Église où il y a quand même beaucoup de ressources pour nous accompagner dans tout ça et de plus en plus de ressources, Seigneur. Père, je voudrais te prier ce matin pour... les gens qui se fréquentent, les gens qui considèrent le mariage, Seigneur, et qui ont besoin de grandir dans leur capacité de prendre des décisions et de prendre d'énormes décisions. Je prie de les faire maturer en toi, Seigneur, et de leur donner le courage d'avancer avec toi dans la vie, Seigneur. On te prie, Père, de bénir les unions qui se préparent, de bénir les mariages dans cette Église, Seigneur, de restaurer les cœurs brisés par des mariages brisés aussi, Seigneur. Parce qu'on croit, Père, que ceux d'entre nous que tu appelles au mariage peuvent vraiment te glorifier dans leur union, en bâtissant un foyer qui va refléter Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen.